Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur l'émission L'Instant Théovie avec Thibaut Delaruelle, pasteur responsable de ce service libre et gratuit. Aujourd'hui, nous allons reprendre la suite de notre propos que nous avons commencé le mois dernier lors de la précédente émission qui était consacrée à la résurrection. La première émission était donc consacrée sur ce sujet important, fondamental, central de la foi chrétienne. Et bien entendu, qui était situé dans la période de Pâques. Nous avions vu dans cette première émission le caractère problématique de la résurrection, un caractère problématique qui n'est pas récent, hein, parce qu'effectivement, on pourrait penser que finalement la résurrection pose problème depuis, disons, l'avènement de l'esprit critique, de l'esprit scientifique, et que effectivement, c'était une question qui n'était pas aussi sensible initialement. Or, nous avons essayé de voir, nous avons essayé de voir ensemble que finalement la résurrection avait posé problème dès le début, puisque au moins dans les récits ou dans les épîtres autour de Paul, autour de l'apôtre Paul, eh bien il y avait des difficultés. On le voit déjà dans l'épisode de Paul qui est à Athènes, raconté dans le livre des Actes, où finalement les philosophes se moquent de lui. On voit aussi ce même Paul expliquer dans les Épîtres que si les morts ne ressuscitent pas, eh bien la foi chrétienne est vaine. Donc on voit bien que cette question de la résurrection est une question qui est problématique dès le début. Et cela, que ce soit à l'extérieur de la communauté chrétienne, à l'extérieur de la foi chrétienne, avec cette figure des philosophes, mais également en interne, puisque, encore une fois, Paul doit convaincre ses propres frères et sœurs en Christ, eh bien, que la résurrection des morts est quelque chose de central. Alors aujourd'hui, nous allons partir un petit peu sur une autre voie, dans une autre direction. Nous allons essayer de tracer à grands traits. Évidemment, c'est forcément caricatural et on va prendre beaucoup de raccourcis. On ne peut pas être précis sur une question comme ça dans le cadre d'une simple émission radio, mais il peut être intéressant d'essayer de retracer un petit peu l'origine, le développement de cette conviction aussi fondamentale que celle de la résurrection. Alors nous allons commencer par l'Ancien Testament, bien sûr, et donc se poser la question quelque part de la place de la résurrection dans l'Ancien Testament. Alors, vous savez certainement que effectivement, là, il n'y a pas de mention de la résurrection dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve, même si on peut imaginer que quelques mots-clés, quelques lignes de force, eh bien, on nourrit l'évolution de cette conviction. Par exemple, lorsque on a la conviction d'un Dieu qui redresse ceux qui sont courbés. Voilà une expression assez forte. Eh bien, on peut imaginer sans trop se tromper que eh bien il y a quelque chose de ça qui est repris de manière fondamentale avec l'expression de la conviction de la résurrection dans le Nouveau Testament. Et donc que finalement cette idée n'est pas du tout totalement absente dans l'Ancien Testament. Néanmoins, ce qu'il faut dire, et je crois que c'est la première chose importante peut-être, c'est que quand on se penche sur l'Ancien Testament, la question la plus étonnante, la remarque, l'observation, disons, la plus étonnante, c'est de constater qu'il n'y a pas, manifestement en tout cas, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de représentation sur le devenir des morts. Et du coup, évidemment, c'est quelque chose d'assez troublant à de multiples raisons, puisque effectivement, on a du mal à imaginer que toute une civilisation, au fond, zappe ou refoule, ou je sais pas quel terme il faut utiliser, mais en tout cas ne se préoccupe pas du devenir de ses morts. Alors, on imagine que il devait très certainement y avoir des convictions, des représentations, des cultes, des expressions religieuses au sein de l'évolution des Hébreux. Ça, il est difficile d'imaginer qu'il n'y en avait pas. Par contre, effectivement, on n'en trouve pas trace, ou en tout cas de traces directes dans les textes de l'Ancien Testament. Et ce, encore une fois, dans une situation culturelle et géographique qui fait que cette question du devenir des morts était quand même une question assez, comment dire, assez générale, assez courante, puisque si on prend ne serait-ce que l'Égypte, eh bien, on sait que l'Égypte est un pays où cette question des morts, du devenir des morts, de ce que deviennent les morts après la vie, est bien sûr une question d'autant plus fondamentale qu'elle est omniprésente. On sait par exemple que la pyramide est un tombeau, évidemment, et qu'il représente tout un cycle de la vie avec les trajectoires du soleil qui se lèvent, qui montent au zénith avant de redescendre. Et donc, il y a bien une mise en scène métaphysique, cosmique, culturelle, religieuse, politique, tout ce qu'on veut, totalement indépassable, incontournable autour de cette question, encore une fois, des morts, de l'au-delà, et effectivement de ce qui se passe pour quelqu'un après son décès. Voilà. Et donc, à plus forte raison, du coup, cette absence de représentation, de réponse dans les textes qui forment l'Ancien Testament est évidemment d'autant plus troublant. Alors, peut-être il faut prendre les choses un petit peu différemment et se dire que il faut d'abord partir de la conviction des textes de l'Ancien Testament et ce finalement bien sûr il y en a certainement plusieurs qui prennent des formes différentes et multiples un peu au fur et à mesure de l'histoire, hein. L'Ancien Testament, c'est pas quelque chose de monolithique. Les textes entre eux n'ont pas tout à fait les mêmes théologies, les mêmes convictions, les mêmes représentations. Et bien entendu, tout cela évolue aussi au cours de l'histoire. Donc, quand évidemment je parle de l'Ancien Testament, il faut être prudent et ne pas penser qu'il y aurait quelque chose de monolithique. Bon. Néanmoins, ce qu'on peut identifier dans l'Ancien Testament, c'est quand même une espérance qui se encore une fois qui va se construire, qui va se développer, qui va prendre des formes sans doute un peu différentes selon les périodes de l'histoire d'Israël, de l'histoire du peuple hébreu, mais on peut dire que effectivement il y a l'attente de la réalisation de la promesse de Dieu. Font cette promesse que on voit représentée de manière extrêmement forte à travers la figure d'Abraham, à qui Dieu fait la promesse. Eh bien, au fond, l'idée, c'est que justement cette promesse, elle doit se réaliser, elle doit conduire l'histoire, le développement de l'histoire des descendants d'Abraham vers une réalisation de cette promesse. Encore une fois, je précise que cette promesse va prendre sans doute des formes assez différentes en fonction de l'histoire d'Israël, en fonction de sa situation. Il est bien évident que quand le peuple est en difficulté, eh bien, cette promesse va peut-être prendre la forme d'une libération, là où quand Israël est plutôt en position de souveraineté, de force, etc., eh bien, cette promesse va prendre un sens sensiblement différent. Voilà. Donc, il faut, encore une fois, là aussi, ne pas penser qu'il y a une représentation unique et monolithique, mais par contre, on peut imaginer effectivement qu'il y a une dynamique, et c'est cette dynamique-là qui est importante, une dynamique d'attente, une dynamique qui fait que le temps lui-même, au fond, est tendu vers l'avant. Hein. Ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important aussi au fond de noter que il y a quelque chose du temps dont nous sommes héritiers, nous en Occident, dans la modernité, le temps comme histoire, le temps comme développement, et le temps aussi parfois qui a pu être pensé comme ayant un sens, le sens de l'histoire, hein, eh bien, tout cela, quelque part, est fortement enrichi, influencé par justement cette conviction biblique que une promesse a été faite, que du coup, le temps n'est pas quelque chose qui se répète de manière saisonnière, comme c'est souvent le cas dans les représentations des cultures non bibliques, des cultures païennes, où effectivement, le temps est représenté davantage davantage comme quelque chose de cyclique, comme une sorte de perpétuel recommencement, eh bien le temps biblique, lui, est un temps qui est intégralement tendu vers l'avant, tendu vers une réalisation, tendu vers une fin. Fin qu'il faut entendre, encore une fois, non pas comme quelque chose qui se finit, qui se termine, mais comme quelque chose qui atteint son but, qui atteint sa réalisation. Voilà. Et donc, ça, cette dynamique-là, évidemment, encore une fois, est une dynamique profondément biblique, est une dynamique qui est profondément inscrite dans les textes de l'Ancien Testament. Et du coup, on peut dire que c'est cette dynamique-là, c'est cette logique temporelle qui est beaucoup plus importante que celle de savoir qu'est-ce que deviennent les morts. Voilà. Donc, encore une fois, c'est extrêmement important de noter que, sans doute, que la différence qui peut y avoir dans la culture biblique, dans la foi biblique, eh bien, est différente d'autres cultures, sans doute à cause justement de cette conception du temps très particulière qui, encore une fois, est tendue vers une réalisation. Voilà. Et donc, il faut rajouter aussi que cette conception du temps, bien entendu, d'un temps qui va vers une réalisation, eh bien, finalement, cette réalisation, elle se passe aussi quelque part à l'intérieur même de l'histoire. Dans le sens où, à partir du moment où on imagine que Dieu va accomplir ce qu'il a promis, eh bien, cet accomplissement a lieu dans l'histoire. Voilà, il n'a pas lieu dans un au-delà, il n'a pas lieu en dehors, mais il a bel et bien lieu dans l'histoire. Donc là aussi, on peut penser, imaginer que effectivement, du coup, la question des morts, la question d'un au-delà est une question qui est éclipsée par cette grande conviction, ce grand dynamisme de conception qui se situe beaucoup plus dans l'histoire. Même si, encore une fois, bien entendu, on imagine que une fin de l'histoire qui a lieu dans l'histoire, elle met aussi quelque part fin à l'histoire et donc elle projette l'histoire aussi dans un inédit et donc quelque part dans un au-delà d'elle-même. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. À partir du moment où il y a une réalisation de l'histoire, où Dieu accomplit sa promesse, eh bien le temps forcément va automatiquement prendre une autre direction et on n'est plus tout à fait dans le registre de l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus penser que ça serait une conviction qui est strictement historique parce que évidemment l'histoire prendrait un tournant quand même différent. Voilà. Mais c'est important quand même de noter cette différence fondamentale, cette structure différente de conviction qui, encore une fois, ne se situe pas en dehors, mais se situe pleinement au-dedans de l'histoire. Voilà. Cet événement de la réalisation, il a notamment le nom de jour du Seigneur, hein, l'idée que un jour justement il se passera cet événement. Même si encore une fois cet événement peut être représenté de manière très différente selon les périodes de l'histoire.
a terrible thing. But on the tree, victory, victory, Jesus rose up from the grave. Hear the angels sing, singing the words you sing. So you better believe it's for freedom that you were set free. I said he died for my sins. So the tide could be said.
Donc, si on reprend notre propos, nous avons vu que dans l'Ancien Testament, donc de façon un peu surprenante, il n'y avait aucune représentation, aucun développement sur le devenir des morts, sur des représentations d'une quelconque vie après la mort ou de choses de ce genre-là, mais que effectivement à la place on trouve une grande dynamique, une dynamique qui s'exprime dans le temps, dans l'histoire, une dynamique d'attente, une dynamique de réalisation, et que c'est vraisemblablement cette dynamique qui d'ailleurs peut porter évidemment ce terme de salut, hein. Le salut, c'est bien entendu le moment où quelque chose se passe. Alors le salut, c'est d'abord à ce qui est arrivé, hein. Le salut dans l'Ancien Testament, c'est bien entendu la sortie d'Égypte. Donc c'est pas quelque chose qui est devant, c'est quelque chose qui est derrière, c'est quelque chose qui a été offert, hein. Le Dieu de salut, c'est le Dieu de la foi, c'est le Dieu de la rencontre, celui qui a ouvert. Bon, mais bien entendu, cette ouverture première, elle est aussi, encore une fois, en attente, et justement l'attente d'une réalisation totale, parfaite de la promesse. Voilà. Donc c'est cette tension-là, cette dynamique-là que on va trouver dans l'Ancien Testament et qui, sans doute, c'est ça qui explique que ça éclipse toute autre représentation plus métaphysique, encore une fois, du devenir des morts. Voilà. On a coutume d'identifier la crise des Maccabées au deuxième siècle avant notre ère, au fond comme étant un peu le moment où quelque chose de nouveau autour des morts va commencer à se représenter. Donc la crise des Maccabées, c'est des gens qui donnent leur vie contre l'occupant grec. Voilà, donc il va y avoir des martyrs, il va y avoir des gens qui donnent leur vie, etc., pour la cause. Et donc la question va commencer à se poser, de se dire mais finalement ces gens qui souvent d'ailleurs jeunes vont pas avoir de descendance, puisqu'il va y avoir ils vont être tués avant la descendance, et la descendance du coup était quelque chose d'extrêmement importante, puisque finalement le jour du Seigneur, le jour de la réalisation de la promesse de Dieu, eh bien finalement la grande attente, eh bien, c'est que sa tribu soit représentée. Donc il y a les 12 tribus d'Israël, bien entendu, mais à travers ces tribus, ben, il y a les familles, et donc l'idée, c'était que sa descendance fasse partie de ceux qui pourront vivre la réalisation. Eh bien, au fond, avec la crise des Maccabées, on va avoir quelque chose qui va un petit peu s'individualiser, au sens où, eh bien, justement, comme ils auront probablement pas de descendance, eh bien, finalement, est-ce que ça serait pas normal qu'ils puissent assister à cet événement de la réalisation du jour du Seigneur? Voilà. Et donc, il va commencer à se représenter l'idée qu'un certain nombre de gens, qui seraient particulièrement méritants par leur par leur sacrifice, par ce qu'ils ont pu donner pour la cause, pour le peuple, eh bien que finalement ces gens pourraient revenir pour assister au jour du Seigneur. Et donc c'est un peu intéressant parce que c'est pour le coup c'est un devenir des morts, mais pas dans l'au-delà, mais plutôt dans l'ici-bas de l'histoire, même si encore une fois c'est l'ici-bas de la réalisation de l'histoire, donc on peut plus vraiment dire que c'est de l'histoire en tant que telle, mais quand même, vous voyez, on n'est pas du tout dans le registre, comme c'est le cas en Égypte, de passer dans une espèce de d'autre monde, le monde l'au-delà. Voilà, là on est beaucoup plus dans le sens où il s'agirait de finalement que des gens qui étaient on sait pas très bien où dans le séjour des morts, hein, donc j'ai dit qu'il y avait pas de représentation, mais il y a quand même la mention de se coucher avec ses pères dans l'Ancien Testament, donc il y a quand même l'idée qu'il y a un lieu où les morts sont, même si on ne sait pas très bien ce qu'il advient d'eux. Et bien au fond, ben voilà, dans cette espérance à partir des Maccabées, on peut penser qu'il y aurait une sorte de retour un peu exceptionnel pour ces individus particuliers qui ferait qu'ils puissent assister au jour du Seigneur, donc à la réalisation de sa promesse. Voilà. Alors cette espérance-là, elle va se développer et elle va pas forcément s'imposer, puisque ça va être une espérance qu'on va plutôt retrouver autour du judaïsme de type pharisien. Il y a déjà à l'époque plusieurs judaïsmes qui se sont développés. Le judaïsme bien sûr du temple qui a lieu en terre de Canaan, donc en Palestine. Donc évidemment les choses elles sont basé autour du culte, autour du temple à Jérusalem, etc., etc. Mais pour la diaspora qui habite loin du temple, il y a tout un judaïsme qui est celui de la Torah qui va se développer, qui est le judaïsme des pharisiens, où évidemment c'est plus le temple qui va jouer un rôle central, mais la Torah, et donc l'étude de la Torah, et du coup la synagogue comme lieu d'étude de la Torah. Donc on voit que c'est un judaïsme qui est sensiblement différent, puisque c'est plus un judaïsme de la prêtrise, comme c'est le cas avec les Sadducéens au temple de Jérusalem, mais qui est beaucoup plus un judaïsme de l'étude de la Torah. Et d'ailleurs, on peut penser que qui dit justement étude dit quand même une forme d'individualité, puisque étudier, c'est une démarche quand même qui est individuelle, peut être collective, mais elle touche les individus un par un. Et du coup, c'est pas surprenant que ce soit plutôt dans le judaïsme-là que justement est apparu et s'est développé cette conception d'une possible d'un possible retour des morts, et donc d'une résurrection de certains morts pour assister, encore une fois, à la réalisation de la promesse de Dieu. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va se développer beaucoup plus dans le judaïsme pharisien et qui ne va pas se développer dans le judaïsme sadducéen. Et on le voit très bien dans un épisode du Nouveau Testament, quand justement les sadducéens interrogent Jésus avec cette femme, vous savez, qui a sept maris, et qui pose de manière tout à fait narquoise quel mari elle va épouser à la résurrection, puisqu'elle en aura eu sept. Voilà. Donc on voit très bien l'opposition théologique entre les sadducéens qui ne croient pas en la résurrection et puis les pharisiens qui, eux, croient en la résurrection. Voilà. Mais, encore une fois, on voit que cette conception de la résurrection est une conception qui se situe à la fin des temps, justement, au moment de la réalisation de l'histoire dans l'histoire, même si ça excède l'histoire. Voilà, on a une conviction d'un retour, et donc d'un retour aussi, justement, qui est lié à un certain mérite. Donc on peut imaginer, bien entendu, que ça vient se greffer à une certaine observance de la loi, encore une fois, qui est beaucoup plus lié à un judaïsme de l'observance de la loi, et donc un judaïsme de type pharisien. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, le christianisme va reprendre cette notion qui a commencé donc à se développer 2-3 siècles avant notre ère, et donc va reprendre cette notion de la résurrection des morts, qui encore une fois est une notion qui est pas du tout enfin, comment dire, homogène, unanime dans le judaïsme, qui fait partie plutôt des pharisiens, comme je viens de le dire. Mais voilà. Mais donc, le christianisme va reprendre ça, mais va opérer une subversion par rapport à elle. Et finalement, le texte dans lequel on voit très bien, c'est l'épisode dans lequel on le voit très bien, c'est bien sûr l'épisode de la résurrection de Lazare. Alors c'est un épisode dans l'évangile de Jean, donc c'est quelque chose qui est élaboré relativement tardivement, puisque l'évangile de Jean est quand même un évangile très évolué, très travaillé, donc voilà, donc c'est pas les textes les plus anciens du Nouveau Testament, mais on voit bien quand même que la subversion qui est justement décrite et a été bien pensée, et finalement à travers cette figure, vous savez, des sœurs de Lazare qui reprochent à Jésus de pas être arrivé plus tôt, et que s'il était arrivé plus tôt, eh bien justement Lazare ne serait pas mort. Que Jésus leur répond que Lazare ressuscitera, et que voilà, justement la sœur de Lazare dit oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Donc elle est dans une espérance et une croyance de type pharisienne, et Jésus lui dit: moi je suis la résurrection et la vie. Donc on voit bien que la subversion, elle est totale, puisque finalement la résurrection, c'est pas quelque chose qui est passé, qui est placé à la fin des temps, et qui est quelque part une sorte de moyen pour atteindre le salut de la réalisation de Dieu dans l'histoire, voilà, mais que elle est en elle-même littéralement l'événement. Voilà. Donc ça, je crois que c'est quelque chose justement qu'il faut théologiquement, à travers notre travail de prédicateur, de lecteur des textes, qu'il faut sans arrêt creuser à nouveau, parce que c'est pas un détail, c'est pas juste une représentation comme ça, comme c'est trop souvent caricaturé. Voilà, on croit que les morts ressuscitent, des choses comme ça. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, puisque on voit bien que ça a un rapport au temps, ça a un rapport à la conception du salut, ça a un rapport à l'histoire. Un rapport à l'individu, c'est un rapport au collectif, etc., etc. Donc, on peut pas simplement ranger la question de la résurrection comme une simple, j'irais, une simple représentation post-mortem. Voilà, c'est beaucoup plus complexe. Et encore une fois, le fait même que Jésus dise « Je suis la résurrection », voilà, à un moment où effectivement, il y a pas de mort, hein, voilà. Enfin, Lazare est mort, bien entendu, mais je veux dire, et il va le ressusciter. Mais on voit bien que la résurrection de Lazare n'est pas du tout la résurrection de la foi chrétienne. C'est pas ça la résurrection évangélique, parce que de toute façon Lazare il ressuscite, mais il va bien falloir qu'il remeure. Donc quelque part c'est plutôt un texte qui est symbolique, voilà, c'est pas du tout un texte qui décrirait quelque chose de ce qu'est la résurrection, la résurrection au sens, voilà, au sens fort du terme, au sens évangélique du terme, voilà. Donc du coup, encore une fois, c'est important de voir cette subversion qui, encore une fois, devient littéralement l'événement, qui est un événement qui surgit, qui est, il faut le dire, qui est littéralement l'événement de la foi. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Je pense que parce que c'est pareil, le terme de foi, on peut le mettre à peu près à toutes les sauces, hein. Finalement, des fois, il y en a plein. Je veux dire, voilà, il y a des fois dans d'autres religions que la religion chrétienne. On a tendance à dire que les juifs, c'est plus une obéissance qu'une foi. Donc, on va trouver ça dans les développements de Paul dans ses épîtres. Mais on se doute bien qu'un juif, quand il pratique, il croit aussi. Évidemment, c'est pas simplement une obéissance aveugle, mécanique d'un robot. Il y a bien de l'ordre de quelque chose, de l'ordre de la croix, de la croyance, et donc aussi d'une foi, d'une confiance. Donc ça, c'est pas, je dirais, c'est quelque chose d'identique. Donc dans l'islam, je vais pas le développer ici, mais c'est vraisemblablement aussi quelque chose du même ordre. Donc encore une fois, la foi n'est pas à proprement parler quelque chose de singulier ou de propre à l'évangile. Mais peut-être que ce qui est singulier et propre à l'évangile, c'est d'identifier justement la foi et la résurrection. Au fond, c'est de dire que on ne peut pas croire au sens évangélique sans ressusciter, et ressusciter et croire au fond de manière évangélique sont une seule et même chose. Voilà. Alors évidemment, dit comme ça, ça peut paraître un peu abrupt, quoi. Qu'est-ce que c'est que ressusciter? Voilà. Et là, évidemment, se pose la question des représentations que on peut mettre derrière. Et dans le Nouveau Testament, bah, y en a plein. On voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'existence. C'est un événement existentiel. Il y a bien un avant et un après. C'est pour ça qu'aussi qu'on va parler de nouvelle naissance, de choses de ce registre-là. Mais voilà. Mais c'est extrêmement, me semble-t-il, décisif, justement, de bien comprendre que cette évolution de la compréhension du salut, de la réalisation, de la résurrection, etc., etc., bah, tout d'un coup, elle se retrouve de manière forte, concentrée, condensée dans ce qu'est la foi chrétienne au sens strict, qui encore une fois n'est pas simplement la foi au sens de la confiance. Bien sûr que c'est ça fondamentalement. Il s'agit bien de dire que croire, c'est faire confiance, c'est faire fiance, etc., etc. Donc tout ça, ça demeure bien entendu, mais de manière plus fondamentale encore, c'est littéralement s'identifier l'événement de la foi avec la résurrection. J'en reste là pour aujourd'hui sur cette question. Je la reprendrai dans l'émission la fois prochaine, et je vous souhaite à toutes et à tous au revoir et à bientôt.